Tout d'abord, bonjour, je me présente.
Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement votre parcours?
Des portraits?
Oui, au Tchad, bon, j'ai fait...
Je fais des études pour devenir éducateur sportif, dont j'ai obtenu une bourse par la...
Des portraits?
Quand on a la chance d'avoir une scolarité...
À ce jour, j'ai continué mon travail, j'ai travaillé...
On pensait que c'était bien pour moi, sans savoir réellement ce
très
que
très tôt, bah, ça m'a donné envie d'écrire.
Vous venez d'écouter Laurent Gabarou.
Nouradine Anne.
Et vous m'avez parlé tout à l'heure dans l'introduction du regroupement familial.
Bon, bah, j'ai mappé la foule de
Strasson. Portrait. Je suis athlète de haut niveau, donc j'ai fait deux podiums.
Clairement, oui, moi je pense que c'est une chance de pouvoir faire sa scolarité dans un environnement où il y a plus de mixité sociale.
Portrait. Quelle image aviez-vous de la France?
Mais l'image qu'on peut avoir...
Vous pouvez nous expliquer la différence entre l'hiver?
Juste, merci beaucoup d'avoir donné la chance de pouvoir en parler.
Je trouve ça génial.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la seconde partie du portrait consacré à Arnaud Delpoux, musicien, compositeur, metteur en scène et comédien. Dans la première partie de l'émission, Arnaud Delpoux nous a parlé de son enfance à Issoudun, dans l'Indre, de sa passion pour la guitare à l'âge de 17 ans, de ses études en histoire de l'art. Arnaud débarque à Paris à la fin des années 90 pour poursuivre ses études, qu'il arrête juste avant sa soutenance de maîtrise, sans prévenir personne. Comme ça, sur un coup de tête. Il enchaîne des boulots précaires avant de se retrouver illustrateur sonore à France Télévisions, période pendant laquelle il arrête complètement la guitare. Mais vous vous en doutez, ça n'a pas duré longtemps. Quoique...
Alors évidemment, les auditeurs, les auditrices l'auront également compris, vous n'allez pas arrêter la guitare, enfin assez longtemps quand même, hein, 5 ans, 2002 ouais. à 2007, et puis en 2007... Hop, vous replongez. Hein. Oui, comme si c'était un peu de l'addiction. Bon,
oui, replongez. Parce qu'après, je suis revenu en 2005 à Paris. C'est que j'ai quitté Paris pendant presque 2 ans. Je suis revenu en 2005 à Paris et j'ai repris plusieurs petits boulots administratifs. Et puis bon, voilà, je commençais au bas de l'échelle. Et puis un boulot un petit peu plus payé, un petit peu plus payé. Donc j'ai pu commencer à m'installer. Et en 2007, à la suite de rencontres de collègues, j'ai eu envie de reprendre la guitare parce que j'ai eu des envies de spectacle, des envies de jouer. Et en reprenant la guitare en 2007, il s'est passé quelque chose d'incroyable. J'aimais bien ce que je jouais. Et je m'amusais. Et d'un seul coup, comme j'avais laissé assez de temps pour oublier tout ce que les autres m'avaient dit de comment je devais jouer. C'est-à-dire que là, je me suis mis à jouer comme j'avais envie de jouer, en ne respectant pas une logique, en ne respectant pas une règle, en ne respectant pas de, je dirais, une méthodologie particulière. Je l'ai fait comme j'en avais envie. Et je me suis rendu compte que je pouvais commencer à jouer ce que j'avais envie.
Une petite renaissance.
Ah ouais, et là, ça m'a plu. Mais j'ai énormément adoré. Et là, j'ai retrouvé le côté sensuel de l'instrument. J'adorais poser mes doigts sur le manche de la guitare, la vibration, la caisse qui vibre, parce que moi, c'est guitare acoustique. Et j'adorais ce son-là. J'adorais d'être en vibration. Ça me plaisait. Et j'ai retrouvé ce qui m'avait manqué pendant toutes ces années. J'ai retrouvé l'enfant qui était en moi. L'émerveillement de dire oh, « c'est beau quand ça sonne ». Juste de se dire « mais je joue et c'est beau. C'est beau et c'est beau et c'est beau ». Et rien que ça, c'était merveilleux. J'ai été heureux de rejouer. Et j'avais quelques idées, j'avais des envies, et c'est là où j'ai rencontré un ami, on a monté un spectacle, comme ça, pour rigoler, avec de l'informatique, on a bidouillé partout, avec de la guitare.
On peut dire que c'est votre premier vrai projet ?
Oui, c'était ça, en 2007, ouais. Mon vrai projet personnel, où je commençais à jouer des morceaux que j'avais composés, ou que, d'ailleurs, que j'avais commencé à composer en 2000 ou 2001, mais qui étaient nuls, enfin, je trouvais ça pas bien, je trouvais que ça me sonnait pas, puis je les ai repris là, je dis, ah, mais c'est bien, puis en plus ça plaît aux gens, mais c'est magique, reprenons. Et dans cette foulée, j'ai rencontré d'autres chanteuses, on a commencé à faire quelques petits concerts, voilà, dans les bars, dans les petites soirées privées, les salles des fêtes, des petites salles de spectacle, on faisait que de la reprise, chansons françaises, pop, variété, jazz, bossa, ça a commencé à me plaire, quoi. Et 2007, c'est le moment où je commençais aussi à me poser un peu dans ma vie professionnelle. C'est là où j'ai accepté pour la première fois de ma vie un CDI. Vraiment pour de vrai. Et ça a commencé, j'ai pu me poser comme ça. Mais forcément, au bout d'un moment, la musique a pris de plus en plus de place. Et ça a fait de sacrées frictions avec mon travail.
Avec votre employeur de l'époque.
Oui, ça a fait beaucoup de frictions, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et puis, j'ai commencé à rencontrer de plus en plus de gens. Parallèlement, j'ai repris le théâtre dans un atelier. J'ai remonté des pièces, j'ai rencontré du monde. J'ai rencontré Raghunath Mané via un festival indien organisé par ma mère. Qui me disait, ah, mais c'est sympa, on sent une sensibilité. On commençait à me dire, T'as quand même des choses à dire, t'as quand même des choses à faire. Peut-être que c'est ça que tu devrais faire de ta vie, mais c'est toujours cette peur qui nous tenaille. Et puis comme j'avais vécu pas mal d'années précaires financièrement, sans toi vraiment stable...
Ça fait plutôt du bien d'avoir...
Ouais, j'ai quand même apprécié régulières. Un peu, voilà. Mais quand j'ai pris conscience que ça me rendait malade parce que je grossissais, parce que je m'ennuyais au boulot, parce que dans la santé ça ne va pas et puis que j'ai pas le temps pour tout faire et que ça me laissait pas le côté, on va dire, une grande place intellectuelle pour la créativité, ça me posait des problèmes.
Et ça vous a posé des problèmes. Et voilà, de toute façon, rebelote. C'est à chaque fois rebelote. Je vous ai d'ailleurs demandé d'apporter un livre, un peu votre livre de chevet. Mm-hmm. Donc, vous êtes venu avec l'ouvrage de Thomas Bernhard. Donc, c'est un écrivain allemand.
Autrichien.
Autrichien, pardon.
Autrichien.
Donc, le titre de l'ouvrage, c'est La cave. Bah, je vais lire justement la quatrième de couvre, en tout cas un petit bout. Partir dans la direction opposée à celle qu'il a prise. Comme chaque jour pour se rendre au lycée, voilà ce que décide soudain Thomas Bernhard à 15 ans. Ce demi-tour décidera de toute sa vie. Il ne le regrettera pas. Pourtant, les conditions sont dures dans la cave de Monsieur Podlard, le magasin d'alimentation où elle a trouvé une place d'apprenti. Aucun travail ne le rebute. Et quelle clientèle dans ce quartier que la ville tient à l'écart. C'est la misère, l'ivronnerie, le crime, le suicide. Bon, vous vous êtes pas allé jusqu'à là. Hein.
Non, et en plus, ce qui est amusant, c'est que j'ai lu ce livre après que ça me soit arrivé. Enfin, je l'ai découvert en 2003, à peu près, le livre. Ouais. Ça, pour moi, c'était une révélation. Enfin, Thomas Bernhard, c'est, comme je dis, c'est mon auteur préféré, celui dont, quand il parle, enfin, quand c'est qu'il écrit, ça me parle. Et il dit les choses tellement mieux que moi que voilà, c'est pour ça que je l'aime autant. Et c'est ça, il est parti, il était dans un lycée plus au cossu, etc., mais avec une forte tradition catholique, parfois encore quelques relents de nazisme, parce qu'il est né en 1931, je crois, ouais. Thomas Bernhard, donc voilà, c'était juste après la guerre, c'était un petit peu dur. Il a décidé d'aller dans le sens complet opposé, dans le quartier le plus misérable, au fin fond de la cave, d'ailleurs dans laquelle il va attraper la maladie qui va le tuer à la fin des années 80, parce que c'était une cave humide, pas très saine, etc. Mais il a fallu absolument qu'il aille dans le sens inverse. Et quand j'ai lu ça quelques années après avoir arrêté ma mémoire et après avoir quitté France Télévisions, je me suis dit, oh, ça me parle tellement. Mais lui, en plus, moi,
c'est
je me suis
exactement
dit,
ce que vous avez fait finalement.
Oui, d'une certaine manière. Enfin, je retrouve l'esprit parce que lui, il l'a fait à 15 ans. Qu'est-ce que j'aurais aimé le faire peut-être aussi plus tôt. Je me dis parfois, j'ai peut-être perdu du temps aussi. Peut-être que s'il avait lu plus tôt, mais c'est pas grave. C'est chacun sa vie. Enfin, chacun un moment s'en rend compte. Et en 2010, quand j'ai arrêté mon travail professionnel pour me consacrer vraiment au théâtre et à la musique, tous les matins, quand j'étais à Châtelet pour prendre le RERB, parce que je prenais le RERB tous les jours. C'était une vraie galère.
C'est
et je
une
me
belle
disais,
ligne, la RERB, ouais, pourtant.
Voilà. Bah, elle est belle, mais bon, le problème, c'est que, voilà, je sais pas. Ce sont des problèmes techniques qui me dépassent un peu. Et chaque jour, j'avais envie de partir dans le sens inverse complet. Tous les jours, j'avais envie. Et ça me rendait malheureux. Malheureux, malheureux.
Et finalement, vous le faites en 2010.
Jusqu'au jour où j'arrive un matin et je dis j'arrête. Je suis pas parti de manière aussi violente que les fois précédentes, parce que bon, dans le milieu du travail, il faut généralement faire ça bien, sinon on a que des soucis avec Pôle emploi ou l'inspection du travail. Enfin bon, bref, j'ai dit on va faire les choses à peu près bien, on va éviter de partir comme j'ai fait en abandon de poste. Voilà, puis en plus partir en abandon de poste, ça veut dire pas toucher du tout l'indemnité. Je me suis dit bon, ne fais pas comme les fois précédentes, fais les choses un peu mieux, plus proprement.
Donc on est en 2010, vous avez eu déjà ce premier projet en 2007. Entre-temps, vous avez créé une association, l'association ouais. Plébiscite.
Oui.
Alors comment est née l'idée de créer cette association avec votre frère, me semble-t-il?
Oui, avec mon frère un ami de fac voilà, qui me disait, tiens, on va monter ça. Parce qu'avec mon frère, on a beaucoup fait de petites conneries en vidéo, en musique, on s'amusait. Et en 2007, quand j'ai commencé à faire quelques projets musicaux, j'ai commencé à voir les chanteuses avec qui je faisais en duo, comme ça, plusieurs petits spectacles. Et j'ai décidé d'arrêter de faire des ateliers théâtre où je me rendais compte que je jouais 10 minutes, 3 dates en fin d'année. J'avais travaillé un an pour 10 minutes en fin d'année dans une mise en scène que je qualifierais de... Si c'est pour faire ça, je peux faire pareil. Mmh. Donc je me suis dit, bon, bah, je me lance dans mes propres pièces, je me donne mes propres rôles, des vraies pièces complètes, du véritable répertoire. Et à un moment, je me suis dit, comment j'encadre tout ça? Parce qu'il va falloir par signer des contrats. Donc en 2009, je crée l'association Plébiscite pour encadrer la musique, le théâtre et quelques autres prestations. On avait prévu large. Mmh. Et ça s'est très bien développé parce que en 2009, on crée ça. En 2010, on a fait quoi? On a fait 7 ou 8 spectacles dans l'année. Et l'année 2015, où je l'ai arrêté là en fin d'année 2015, on est arrivé à pas loin, je crois, de 150 dates ou tout mélangé, quoi, entre spectacle, théâtre, musique. Enfin, disons que je les ai même pas comptés. Mais on est passé de 5 à, enfin, 5, 7 dates à 150 l'année dernière. Donc, il y a eu une belle marge de progression.
Un beau développement. Avec notamment les Sans Attaches, les Contes des Fées, dont vous avez joué la 200e il n'y a pas longtemps.
Pratiquement la 200e.
Des Trois Bornes.
Ouais.
Alors, on ne va pas forcément raconter toutes les histoires.
Non,
on renverra vers votre site tout à l'heure.
Tout est bien détaillé.
Il y aura les détails sur ça. Mais vous êtes arrivé à La Verrière, en tout cas, dans le coin, en 2009.
Oui.
Vous y rencontrez Lydia Padelec, qu'on connaît très bien ici à Marmite FM, avec qui vous allez collaborer, notamment sur le thème de sur la poésie. Vous allez accompagner musicalement la poésie. Alors, racontez-nous un petit peu cette rencontre. Comment vous avez débarqué dans le coin et qu'est-ce qui vous a comment vous avez accroché sur la poésie qui était peut-être pas forcément votre thème de prédilection.
Non, je m'y connaissais peu. C'est-à-dire, pratiquement de tous les arts majeurs entre guillemets, la poésie était celui que je connaissais le moins et de très loin. Je connaissais les classiques du 19e. Mais je connaissais rien du 20e, pratiquement, à part peut-être Aragon. Et comme je montais un spectacle pluridisciplinaire musical, j'avais décidé de faire un spectacle qui me ressemble, donc de la musique, un peu tout style de musique, des compositions, qui mélangerait de la vidéo, de la photo sur scène. Et je m'étais dit, j'aimerais bien du texte parlé. Et bon, les textes littéraires, je sais pas, je me suis dit, de la poésie. Pourquoi pas de la poésie? Ça me semble bien, et de la poésie contemporaine. Faisons vraiment de la poésie contemporaine telle que ça existe. Je connais pas bien, c'est l'occasion de m'y connaître. Et j'ai vu ça, et à un moment, j'ai rencontré Lydia Padelec, qui m'a dit, ça m'a plu ce qu'elle a écrit, j'ai beaucoup aimé. Et elle m'a présenté comment elle montait sa maison d'édition, et qu'elle connaissait beaucoup de monde.
La Lune Bleue.
Voilà, les éditions de la Lune Bleue. Et elle connaissait beaucoup de monde avec la maison de la poésie de Saint-Quentin en Yvelines, Jacques Fournier, tout ça. Et comme je montais ce spectacle, elle m'a dit, je vais te présenter plusieurs poètes de cette maison d'édition. Et donc c'est comme ça que j'ai rencontré Emonico, mais j'ai rencontré aussi Mario Urbanet, Hervé Martin, et notamment Salah Alamdani, qui d'ailleurs depuis est devenu quelqu'un très important dans ma vie, un ami très très proche.
C'est un réfugié, il est poète avant tout.
C'est un réfugié irakien qui a fui Saddam Hussein en 1975, est arrivé en France sans le sou, sans rien. Il a choisi la France pour ses valeurs, et parce que c'est un amoureux fou de Albert Camus. Est arrivé là, il est devenu comédien, et ensuite il a fait des petits boulots aussi, et il a arrêté à peu près au début des années, fin des années 80, début 90, pour ne faire que de la poésie.
Et vous êtes plutôt bien rencontrés.
On s'est plutôt bien rencontrés.
On s'est rencontrés.
Voilà, on s'est rencontrés à la Maison de la Poésie sur ce spectacle pluridisciplinaire. Et donc j'ai demandé des textes à plusieurs poètes, et après sur chacun des textes j'ai composé de la musique, etc. Et avec ça là j'ai proposé un thème au piano, enfin j'ai proposé quelques notes au piano car je jouais pas de piano à l'époque. J'ai dit, je vois ces notes là comme ça, et tout de suite on a accroché. Il m'a dit, c'est exactement ça que je rêvais d'entendre, et on est devenu amis pratiquement dans la minute où j'ai joué ces quelques notes, et il m'a dit, mais c'est ça que je veux sur mes textes. J'ai dit, oui, mais moi je joue pas de piano.
Et là ça rejoint encore.
J'ai dit, mais je joue pas de piano. Ça me titillait de jouer du piano. Je me dis, oh, j'aimerais bien, mais je me suis dit, bon, si c'est ça qui lui plaît, je vais le faire. Voilà,
donc vous êtes comme à la guitare quand vous aviez 17 ans, vous êtes acharné sur le piano, puis ça a marché.
Voilà, et 9 mois plus tard, on jouait notre premier spectacle au piano, dans ce spectacle pluridisciplinaire avec Lydia Padelec et plein d'autres poètes. D'ailleurs, on est venu présenter une version de ce spectacle en mars 2013, je crois, à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin, où il y avait beaucoup de poètes locaux invités aussi.
Donc 9 mois, une période de gestation, et un accouchement qui s'est très bien passé.
Oui, très bien passé, c'était assez amusant. Et de cette rencontre avec Salah, on a fini par sortir en novembre de 2015 un album de musique reprenant plusieurs de ses textes parmi les plus connus et ceux que j'aime le plus. Et j'ai créé de la musique au piano et à la guitare, et on a fait cet album qui est sorti en novembre 2015. Voilà, Oublier Bagdad qui s'appelle.
Je vous propose justement d'écouter un extrait de cet album, donc La Mer, la voix et les poèmes de Salah El Hamdani, la traduction de l'arabe par l'auteur et par Isabelle Lani, et puis les musiques composées et interprétées par Arnaud Delpou, la guitare notamment, et bien sûr le piano dont vous avez parlé, La Mer.
غير عنوان الدار انتقل صورتي من مكانها الطاولة مطوية خلف الباب وكرسي أبي أيضا وحدها السجادة القديمة كانت تزين الأرض أخيرا عثرت عليك في حديقة عارية بشالك الأسود الكبير سارحة الذهن منسجمة في صلاتك العمر محاك على الوجه. ظننت أني أضم إلى صدري نخلة تحتضر، لكن بين ذراعي. La maison avait changé d'adresse. Ma photo avait changé de place. La table avait été pliée derrière la porte. La chaise de mon père aussi. Seul le vieux tapis fleurissait le sol. J'étais trouvé enfin dans un jardin nu, avec ton grand châle noir, l'esprit en dérive, enfilé dans tes prières, l'âge cousu sur le visage. J'ai cru serrer un palmier agonisant, puis dans mes bras, j'ai reconnu ma mère.
Donc voilà pour cet extrait de votre collaboration avec Salah Hamdani. Où est-ce qu'on peut retrouver d'ailleurs ce CD pour les auditeurs
Accessible sur le site. On peut passer commande auprès de Salah ou de moi-même. Et le CD va être disponible en numérique d'ici une dizaine de jours, voilà, sur Bandcamp. Mais sur nos sites web, à Salah et moi-même, vous trouverez toutes les informations.
Alors pour terminer, Arnaud Delpou, quels sont vos projets actuels ? Puisqu'on l'a vu... du théâtre, évidemment, vous jouez toujours de la musique sur scène. Vous êtes également comédien. Alors, vous m'avez dit tout à l'heure, en préparant l'émission, vous êtes comédien quand vous n'avez pas le choix.
Voilà, quand j'ai pas le choix. C'est-à-dire que je connais mes limites au théâtre et je sais ce que je peux jouer. Et je sais que quand c'est que j'ai certains rôles qui peuvent me revenir, je pense que j'ai au moins cette qualité-là dans le théâtre, c'est de savoir quel rôle peut me convenir. Et sinon, j'aime beaucoup mettre en scène. Et donc, j'ai encore quelques pièces là qui continuent de se jouer à l'affiche, d'autres pièces qui s'amorcent, dont une pièce que je suis en train de finir d'écrire. Ça y est, je me suis attelé depuis quelques semaines et j'ai presque fini, que j'espère présenter pour la saison 2016-2017. Toujours de la musique, un spectacle avec Salah en préparation, mais également avec le poète syrien et réfugié Omar Youssef Souleyman, qui s'appelle De Bagdad et Damas. Prochaine date, pareil, allez voir sur les sites, on va jouer près de chez vous normalement. Également, je prépare un album qui s'appelle sur le projet Loup de Magellan, qui est de la chanson française, jazz, acoustique, un peu soul. Un album qui devrait sortir en mars-avril, pour lequel je collabore juste à la guitare avec d'autres musiciens. Pour mes 40 ans qui vont arriver à la fin de l'année, je prépare un double album personnel que de mes compositions, qui comprendra 20 titres joués en solo et 20 titres avec des invités, qui correspondront à peu près à ceux que j'ai connus depuis une vingtaine d'années.
Un grand projet.
Voilà, et je commence, ça y est, j'ai tout préparé. L'enregistrement va commencer en mars-avril à peu près, là, pour une sortie en octobre. Et puis, je ne sais même plus, voilà. j'accompagne toujours Lydia Padelec sur son festival en Bretagne, voilà, au mois de mars.
Pour de la poésie.
Voilà, pour de la poésie. Trouée poétique, voilà, où là je jouerai de la guitare, j'accompagnerai plusieurs poètes.
En petite question taquine pour terminer, à quand le prochain revirement peut-être le marché en a, ou est-ce que maintenant ça y est, vous êtes lancé?
Peut-être bientôt. Peut-être bientôt, je ne l'exclus pas. De toute façon, il y a eu une fin déjà qui a eu lieu cette année. Elle est en train de se produire, mais de manière moins brutale, parce que j'ai arrêté Plébiscite, qui était donc ma compagnie. Ouais. Je l'ai arrêté fin d'année 2015, là. Et cette année 2016, c'est une façon complètement nouvelle de fonctionner. Et autant l'année dernière, j'étais à fond dans le théâtre en ayant jusqu'à trois pièces en même temps qui pouvaient se jouer à Paris. Et là, j'ai décidé d'arrêter beaucoup le théâtre pour me consacrer vraiment à la musique. Ce sont des ruptures fortes intérieurement, mais qui, d'une manière extérieure, est beaucoup plus logique. Voilà, ce sont des ruptures intérieures, mais beaucoup moins, comment je pourrais dire, moins mouvementées.
Et puis la rupture ne dure jamais très
là,
longtemps.
Là, non, elle ne dure jamais très longtemps. Et puis, de toute façon, je garde toujours musique et théâtre en parallèle.
Je rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité d'Arnaud Delpoux sur son site internet, donc Arnaud Delpoux, delpoux.fr, donc arnauddelpoux.fr. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et puis bon vent.
Merci, à bientôt.
Voilà, c'est ainsi que se termine ce portrait consacré à Arnaud Delpoux. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les deux parties du portrait sur le podcast de la radio à l'adresse suivante
marmitefm.canalblog.com. Vous pourrez bien sûr nous laisser toutes vos remarques ou suggestions. Et n'hésitez pas également à visiter le site de l'artiste à l'adresse arnauddelpoux.fr. arnauddelpoux.fr. Merci à tous.
C'était Portrait. Marmite FM vous a proposé Portrait, des interviews menées par Nouradine Anne.